Le 18-20, c'est d'abord le premier journal de la soirée. Ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 12 mai avec Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec la fin d'un cabaret mythique.
La fin de la revue du Lido, le célèbre cabaret parisien, a été racheté par le groupe Accor qui a décidé de supprimer quasiment tous les postes pour en faire une autre salle de spectacle. Les salariés sont sous le choc, nous serons sur place dans un instant. La Finlande en bonne voie pour adhérer à l'OTAN, les plus hautes autorités politiques du pays s'y disent favorables et la procédure devrait être accélérée. Explication à suivre. À suivre aussi Jean Castex, encore Premier ministre pour quelques jours. Il était dans le Vaucluse aujourd'hui. Le patron d'EDF qui monte encore d'un cran face à Bercy et des étudiants en agronomie qui appellent dans une vidéo virale à déserter leur école.
À 18h15, un jour dans le monde avec un sommet mondial sur le Covid pour mettre un terme à l'épidémie qui est organisé par Washington aujourd'hui, co-présidé par l'Allemagne en virtuel. Derrière cette façade qui ne dit pas grand-chose, c'est l'occasion de voir, pour nous, qui sonnons la fin de cette pandémie, ce que disent les autres, est-ce qu'ils en voient aussi le bout? Évidemment, l'exemple chinois est criant, mais l'inégalité vaccinale aussi reste importante, et on voit ça dans un tout petit instant. À 19h20, c'est le téléphone sonne, et ce soir, on parle bénévolat. Depuis le Covid, 15% de bénévoles en moins, ça fait 2 millions de personnes, ça handicape terriblement les associations qui ont du mal à tourner. Peut-être que c'est l'occasion de repenser l'engagement, réfléchir à comment renouveler les générations de bénévoles, cesser de ne compter que sur les retraités. On verra ça ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'était donc l'un des lieux emblématiques des nuits parisiennes.
Oui, le Lido va remiser ses plumes au placard. La fin d'une époque, le mythique cabaret des Champs-Élysées, créé en 1946, tourne donc la page de ses revues seins nus. Son nouveau propriétaire, le géant hôtelier Accor, l'a annoncé aujourd'hui. 157 postes sur 184 sont supprimés. La revue du Lido ne faisait plus salle comble depuis longtemps et le Covid lui a été fatal. Bonsoir, William Delesseux.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes sur place, sur les Champs-Élysées, où la nouvelle provoque beaucoup d'émotions.
Oui, on a vu les danseuses, les danseurs se tomber dans les bras, parfois en pleurs, ici devant l'entrée des artistes, derrière les Champs-Élysées. Les visages sont comme meurtris par cette nouvelle qui s'est confirmée au fil de la semaine. Seulement une vingtaine de salariés qui restent. Ce sont les syndicats qui ont informé les salariés lundi, comme Laura Bonucci, adhérente à la CGT, couturière de tous ces costumes, qui se sont succédés au fil des revues. 33 ans passés dans les coulisses.
Voilà, ça fait mal au cœur. Je m'y attendais pas parce qu'il y avait la reprise. On a eu des matinées où il y avait eu 1200 personnes. J'y sais, chouette, ça reprend. Et je vois que tous les cabarets reprennent. Et c'est magnifique, c'est magique. Moi, je sais pas pourquoi ils veulent arrêter. Je suis encore scotchée parce que j'ai pas encore pleuré et je pense que je vais pleurer avec mes camarades, avec mes collègues.
Une assemblée générale est en cours à l'intérieur. La direction officialise son projet de réorganisation qui prévoit une nouvelle ligne artistique et toujours une scène, sans en dire vraiment plus. Laura Bonucci veut se battre pour la survie de la salle.
Le Lido doit continuer de vivre puisque ça fonctionne bien, ça marche bien. On vient nous voir, j'espère que ce soir, les danseurs, les danseuses seront applaudis, mais fort, 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 parce qu'ils ont besoin de soutien.
Ah oui, pendant la revue Paris Merveille, ce soir 21h, des danseuses aux costumes dorés, des grooms habillés en bleu, l'un des derniers dîners-spectacles, Sébastien, dans ce format.
William Delesseux, en direct du Lido sur les Champs-Élysées avec Sandrine Malon.
À l'étranger, l'Iran détient 2 otages français supplémentaires.
Un couple, tous les deux membres du syndicat Force Ouvrière, Cécile Collère et son compagnon étaient en voyage touristique en Iran pour les vacances de Pâques, une arrestation sans fondement selon le Quai d'Orsay qui demande à Téhéran leur libération immédiate. 4 Français sont désormais retenus à Téhéran. Ce couple, mais aussi Farida Adelra et Benjamin Brière, condamnés tous les deux à 5 et 8 ans de prison. La Finlande qui se rapproche à grands pas de l'OTAN. Ce n'est pas une surprise. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce pays frontalier de la Russie est resté neutre pendant la guerre froide et désormais favorable à passer sous le parapluie de l'Alliance Atlantique. Le président finlandais et la Première ministre l'ont dit officiellement aujourd'hui. Reste quelques étapes à franchir pour une adhésion concrète. Bonsoir Éric Gagala.
Bonsoir Sébastien.
C'est une procédure qui est normalement assez longue mais qui va aller très vite.
Hein. Oui, ça pourrait aller très très vite en effet. Finlande et Suède devraient faire acte de candidature officiellement dès la semaine prochaine et peut-être à l'occasion de la visite du président finlandais en Suède les 17 et 18 mai. Si la demande est déposée avant la fin mai, avait promis le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, le protocole d'accès d'accession des deux pays pourrait être signé lors du sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid fin juin. Normalement, on compte une bonne année entre le moment où ce protocole est signé et une intégration en bonne et due forme. Il faut en effet que les parlements des 30 pays de l'OTAN se prononcent tous quant à un éventuel élargissement. Sauf que l'Assemblée parlementaire des pays membres de l'Alliance se réunit justement fin mai à Vilnius, en Lituanie. Les parlementaires des pays membres y entendront les arguments de leurs collègues suédois et finlandais et pourraient mettre en priorité à leur ordre du jour parlementaire respectif cette ratification. Certains prédisent que celle-ci pourrait être effective d'ici l'automne. Entre-temps, et comme pour se prémunir de toute éventuelle mauvaise surprise en provenance de Russie, Suède et Finlande ont déjà conclu hier un accord de défense avec la Grande-Bretagne, promettant une assistance mutuelle, y compris militaire, en cas de guerre.
Éric Biagala, ajoutons que la France soutient pleinement le choix souverain de la Finlande. Réaction inverse, évidemment, au Kremlin. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN serait assurément, je cite, une menace. Moscou qui promet une réponse militaro-technique. La Finlande qui possède 1300 km de frontières communes avec la Russie.
Sébastien, le chef du gouvernement est sur le départ, mais ça traîne en longueur.
Les pots et les dîners d'adieu se multiplient. Dîner ce soir de Jean Castex à Matignon avec tous les ministres. Jean Castex qui est encore officiellement Premier ministre et qui a donc fait un déplacement aujourd'hui dans le Vaucluse, particulièrement touché par la sécheresse. Visite dans une exploitation agricole touchée par les restrictions d'eau. S'agissait-il de son adieu au terrain, de son dernier déplacement ou pas? Simon le Baron lui a posé la question.
Eh bien, au milieu des champs de blé et de colza.
On y va ou pas?
C'est le maire de Jonquière, Louis Biscara, qui se lance le premier.
Vraisemblablement,
ses derniers pas dans la peau de Premier ministre, il y a 2 ans, personne n'y croyait, pas même lui. Et même après 350 déplacements, certains ont encore du mal à s'y faire.
Bonjour, André.
Monsieur Dewidel, c'est pas vrai.
Monsieur le Premier ministre, excusez-moi.
Monsieur le préfet, joli lapsus du président de la Chambre d'agriculture, André Bernard.
C'est vrai qu'il faut que je me reconvertisse, mais quand même.
Il ne sera en tout cas ni député, ni sénateur, ni ministre. Besoin de couper avec la politique.
Pourquoi avoir choisi le Vaucluse pour votre dernier déplacement?
Parce que j'aime bien le Vaucluse, ça vous suffit déjà. Bon, j'aurais pu aller dans d'autres départements, malheureusement ce n'est pas le seul frappé par la sécheresse, mais en fait parce que le Vaucluse est particulièrement impacté par ces phénomènes.
Dernier déplacement, en tout cas il ne dit pas non. Et dernière question, vous ne serez donc plus en fonction dimanche pour votre visite au Vatican. Jean Castex rit, d'une main écarte poliment le micro. Une chose est sûre, sa lettre de démission est déjà prête.
Simon le Baron dans le Vaucluse avec Jean Castex. Éric Zemmour, lui, se jette à l'eau. Il est depuis quelques minutes sur la plage des Marines à Cogolin. Un meeting face à la mer pour lancer sa candidature officielle à la députation. Candidat dans la 4e du Var, celle de Saint-Tropez, où il a fait l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle, loin derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron toutefois. Éric Zemmour qui par ailleurs a été relaxé en appel dans l'affaire de ses propos sur Pétain, qui aurait selon lui sauvé des juifs français pendant la guerre. Il était poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. On part pour le tribunal correctionnel de Paris maintenant, où nous suivons le procès de l'accident de l'avion de la Yemenia Airways en 2009 au large des Comores. 152 morts, dont 65 français. La compagnie doit répondre de blessures et homicides involontaires. Elle est notamment soupçonnée d'avoir mal formé ses pilotes. Cet après-midi, audience pénible pour les familles de victimes. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Le tribunal a entendu un médecin légiste qui est revenu sur les causes de ces 152 décès.
Depuis le début de ce procès, la présidente le rappelle régulièrement aux parties civiles. Elles peuvent quitter la salle quand elles le veulent. Précaution nécessaire aujourd'hui. Il ne faut pas faire le parallèle entre un corps et la personne qu'on a aimée, prévient le médecin légiste. Puis il détaille l'avion qui heurte la mer à 800 km/h, la mort causée par de nombreuses fractures. Et ce mystère, ce miracle, dit le légiste, une rescapée, Baya Bakari, 12 ans. C'est fantastique, j'aimerais l'interroger. Autre chose, intrigue le spécialiste, 8 passagers ne semblent pas avoir succombé à des lésions. L'hypothèse d'une noyade n'est pas écartée, dit-il. Est-ce que ça veut dire que ces vies auraient pu être sauvées s'il y avait eu des secours appropriés? Demande un avocat. On sait de toute façon qu'il n'y en avait pas, intervient la présidente. 111 corps ont été retrouvés, une partie en Tanzanie à plus de 500 km. On a identifié ce qu'on pouvait, dit l'expert. Aujourd'hui encore, des interrogations persistent sur le nom des victimes. L'enquête a montré que certains passagers ont embarqué avec des papiers qui n'étaient pas les leurs et donc sous une fausse identité.
Ariane Grissel en direct du tribunal correctionnel de Paris pour ce compte-rendu d'audience. C'est un nouveau pas vers l'extérieur pour Pierre Alessandri, l'un des membres du commando Irignac, après avoir été transféré à la prison corse de Borgo il y a un mois. Le régime de la semi-liberté lui a été accordé, qui lui permettra de travailler dans la journée en dehors du centre pénitentiaire. La décision peut encore faire l'objet d'un appel dans les 10 jours. Lui a choisi le bras de fer avec l'État. Le patron d'EDF a annoncé à ses actionnaires qu'il allait déposer un recours gracieux contre le gouvernement. Au cœur de ces tensions, la décision de Bercy de brader en quelque sorte la production d'électricité d'EDF au profit de ses concurrents pour éviter la flambée des prix. Jean-Bernard Lévy demande donc à l'État de faire machine arrière. Une décision bien accueillie par les petits actionnaires très remontés. Delphine Simon a suivi l'Assemblée Générale.
Face aux actionnaires d'EDF, Jean-Bernard Lévy monte au front. Alors que l'entreprise affronte de lourds investissements, il demande à l'État de revenir sur sa décision de vendre à bas prix à ses concurrents plus d'électricité nucléaire, une mesure qui, dit-il, pénalise l'entreprise.
Tant le prix que les conditions de ces attributions nous pénalisent considérablement. Et je vous informe aujourd'hui qu'au vu de ces textes, je viens d'adresser à l'État un recours gracieux pour en demander le retrait.
Le PDG d'EDF se veut optimiste pour l'avenir. EDF a les reins solides, mais il a du mal à convaincre les petits actionnaires.
Que faites-vous pour protéger les intérêts des actionnaires minoritaires face à l'État? Votre autosatisfaction est inquiétante.
En 15 ans, l'action EDF, un placement de bon père de famille, a perdu 10 fois la valeur de départ, explique cet autre actionnaire qui s'estime lésé.
Quelques buts entre 80 et 6,35. Et cet État ose vous parler de morale sur le dos des actionnaires minoritaires. Je me souviens que l'ancien directeur financier d'EDF a préféré démissionner plutôt que de participer au naufrage, vu le cours d'action, de ce beau navire dont l'équipage n'a pas démérité, bien au contraire. Je ne dirais pas la même chose des administrateurs qui donnent le cap à suivre.
En cas de refus de l'État, EDF pourra saisir des juridictions administratives comme l'ont fait les syndicats. De son côté, Bercy rappelle que sans cette mesure, la facture des ménages aurait été 40% plus élevé.
Delphine Simon.
Et on termine avec une vidéo virale qui appelle les ingénieurs à déserter.
C'est une vidéo qui a déjà été vue 100 000 fois. On y voit une cérémonie de remise de diplôme des élèves de l'école Agrotech Paris, fleuron de l'enseignement agricole en France. Et 8 ingénieurs agronomes fraîchement diplômés appellent leurs camarades de promotion à bifurquer. Un discours saisissant dans lequel ils dénoncent une formation qui pousse Célia Quiret à participer aux ravages socio-écologiques en cours.
Oui, ces diplômés refusent le modèle dominant dans l'agro-industrie.
Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte.
Ni même à la transition écologique. Alors ils choisissent de déserter des chemins tout tracés par l'école. Ils auraient pu travailler dans l'agroalimentaire ou trafiquer des plantes en labo, comme ils disent. Mais non, ils assument leur propre choix. L'un sera apiculteur dans le Dauphiné. L'une va participer à un mouvement écolo et ils en profitent pour envoyer un message très politique.
Mais quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop? Un burn-out à 40 ans? Ne perdons pas notre temps. N'attendons pas le 12e rapport du GIEC. Vous pouvez bifurquer maintenant.
Alors cet après-midi, le directeur de l'école AgroParisTech a réagi. Il n'est pas étonné par ses discours, vu l'ampleur des controverses sur ces sujets. Laurent Buisson.
Il y a vraiment une quête de sens parmi nos étudiants. Et nous, nous sommes là pour leur donner les clés qui vont leur permettre de choisir le sens qu'ils veulent donner d'abord à leurs études, puis au début de leur parcours professionnel. Nous savons et nous espérons même qu'ils ne donneront pas tous le même sens. Il n'y aura pas de solution unique. Il faut forcément qu'on essaye différentes solutions, différentes pistes.
D'ailleurs, cela l'oblige à revoir en permanence les maquettes de formation. Hier, des étudiants normaliens ont publié une tribune dans Le Monde avec cette interpellation très forte. Que restera-t-il du vivant à étudier si nous n'avons rien fait pour l'empêcher de s'effondrer?
Les ingénieurs qui bifurquent avec Célia Quiret. Et puis voilà de quoi peut-être nous réconcilier avec la science et les études, un disque orangé un peu flou entourant une ombre noire. C'est une photo dévoilée aujourd'hui et qui montre pour la première fois Fabienne Sagittaire A, le trou noir supermassif qui trône au centre de notre galaxie. On y revient dans le journal d'Hélène Fille à 19h.
Eh ben, merci beaucoup Sébastien. Nous, on se retrouve avant quand même dans Sous les radars. Vous nous parlerez notamment de cette pénurie de lait maternel aux États-Unis. Ce soir, on profite de ce sommet Covid co-présidé par les États-Unis et par l'Allemagne, sommet virtuel pour voir si ça veut dire la fin, en fait, ou si tout ça est encore un petit peu embourbée. À 19h20, c'est le téléphone sonne, SOS Amitié, bonsoir, toute ma génération. Pour toute ma génération, cette phrase, c'est le Père Noël est une ordure. En réalité, SOS Amitié est réduit à la portion congrue, faute de bénévoles. Les bénévoles en France, depuis le Covid, ont globalement baissé de 2 millions dans l'associatif. Un sacré manque à gagner. Voilà qui oblige à repenser le bénévolat, repenser l'engagement aussi, chercher des forces vives différentes, ne pas toujours compter sur les retraités. C'est le thème ce soir au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Encore quelques averses orageuses demain.
Oui, dès cette nuit, elles vont s'inviter sur l'Aquitaine et puis on les retrouvera sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine demain matin. Elles progresseront ensuite vers le Massif central, vers Rhône-Alpes et le Jura l'après-midi. Plus au nord, le soleil s'imposera vite, juste à quelques nuages près de la Manche le matin. Et puis autour de la Méditerranée, là aussi du soleil, une fois les grisailles du matin dissipées.
Quelques températures, Élodie, pour la route,
hein? Alors souvent 6 à 16 degrés le matin et puis l'après-midi, on va avoir une nouvelle hausse des températures par l'ouest. Alors il fera 17 à 21 degrés près de la Manche, 22 à 25 sur les autres régions du Nord, 23 à 29 au Sud. Et puis ce week-end, la hausse va se poursuivre. Il fera en moyenne 28 degrés pour la journée de dimanche, avec quelques averses orageuses sur l'ouest et en montagne.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure après 19h.